Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah. Donc aujourd'hui, on va parler du musée maritime de Charlevoix et je reçois pour ça Marianne Rainville qui en est la directrice générale. Donc le musée maritime de Charlevoix qui se trouve à Saint-Joseph-de-la-Rive. On va parler bateau, on va parler voyage, on va parler des femmes et des femmes au pays des goélettes parce que tous ces hommes qui partaient sur les bateaux avaient bien besoin d'une présence féminine à côté d'eux en soutien total. Donc on en parle dans un instant. Après avoir entendu cette entrevue, Noémie Chelariou sera avec nous, auteure, compositrice, interprète pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc elle va écouter cette entrevue. Elle va imaginer un voyage qu'elle va nous emmener faire en chanson et en 30 minutes, allez, je lui en accorde presque 40, pas tout à fait, pour finir sa chanson et nous offrir quelque chose suite à cette entrevue dont elle ne sait pas un mot. Ça débute maintenant avec elle, alors elle l'entendra de la même façon que vous dès que notre invité sera en ligne. Pour l'instant, nous partons en musique avec Barbara Pravi qui nous chante « L'homme et l'oiseau ».
Je les regarde battre des ailes, ces hirondelles qui te tournent autour, comme elles se cherchent dans ton regard, elles qui n'auront pas ton amour. Ça les attire comme la lumière, ces cœurs comme toi à demi-clos. Mais mon amour, vas-y, dis-leur qu'on n'enferme pas les oiseaux. Moi je t'admire depuis la terre, voler au flanc des falaises. Plus je te cherche, plus je te perds dans ce ciel de glace et de braise. Toi qui sais des choses qu'on ne sait pas, comme les fous, comme les enfants. Raconte-moi le monde que tu vois là-haut, raconte-moi le dedans. Oh garde-la, ta liberté, elle est ton long manteau d'hiver. Ta grâce et ton fardeau entre l'homme et l'oiseau. J'aime à t'imaginer danser au loin dans ce ciel sans limite. Rêver qu'un jour tu me laisseras épouser tes fugues et ta fuite. Je ferai de ton être un otage, ton corps, tes lèvres et sur ton dos. Mes doigts dessineront des fleuves, traces de mes griffes sur ta peau. Je t'embrasserai avec tant de rage pour que ton corps. Tu pourras boire là sur mes lèvres le désir de retenir la nuit. Jamais plus le jour ne se lèvera pour ne pas déranger nos cris. J'inventerai entre mes courbes des îles pour te réfugier. Quand trop en cage, il te faudra reprendre ta liberté. Oh mon amour, je sais que tu repartiras bientôt. On n'enferme pas les oiseaux. J'ai ouvert mes yeux ce matin et tu étais déjà partie. Les rideaux volent un dessin sur mes murs blancs, un peu jaunis. Comme un soupir tu as filé au beau milieu de notre nuit. Vers quel bras t'es-tu envolé, vers quelle nouvelle rêverie.
Très belle chanson. Et nous accueillons Marianne Rainville. Bonjour Marianne.
Bonjour madame.
Eh bien, écoutez, vous pouvez m'appeler Arlette hein, pendant l'émission. Parce que madame, ça va être un peu beaucoup pour moi. Donc, je vous ai présenté en début d'émission. Donc, vous êtes directrice générale du musée maritime de Charlevoix à Saint-Joseph-de-la-Rive.
Oui.
On va commencer à parler du balado parce que j'ai écouté les 6 balados.
Mm-hmm.
Et je me suis promenée dans l'histoire du Québec de façon extraordinaire dans
ben merci.
Cette
merci.
Histoire qui raconte les femmes au pays des goélettes.
Oui.
Et celles dont on a toujours besoin, puisque on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une femme. Donc derrière chaque marin, il y avait l'épouse aussi.
Ouais. Il y a encore des épouses derrière les marins. Mais le Musée maritime, on a produit ce balado-là dans le cadre de notre 40e anniversaire de fondation. En 2021, le musée a eu 40 ans et le chantier maritime où est installé le musée, parce que notre musée interprète un chantier maritime qui était le cœur du village,
oui.
Qui a été le cœur du village pendant 75 ans. Et donc, à l'automne 2020 ou à peu près, quand on a commencé à travailler sur ces célébrations du 40e et du 75e, immédiatement nous est parvenu et on a eu l'idée qu'il fallait que c'était une belle occasion pour travailler sur les femmes au pays des goélettes.
Ah oui.
Donc, parce que en 40 ans, on avait fait des recherches sur toutes sortes de questions liées aux goélettes, mais on n'avait jamais pris de front cette question.
Mais je vous coupe un instant parce qu'il y a quand même, quand on entend les balados, il y a des entrevues qui datent quand même des années 80.
Alors donc, on a effectivement, alors vous savez, dans un musée, parfois on oublie même ce qu'on a dans nos archives, tellement on en a.
Alors, on est
retourné dans nos archives pour se rendre compte qu'on avait au tout début du musée. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut savoir que le musée a été créé par des femmes de marins, qui voyant péricliter les goélettes et qui voyant de ce fait péricliter le village de Saint-Joseph-de-la-Rive, ont eu cette idée de mettre sur pied un musée maritime et ont littéralement frappé aux portes des maisons de capitaines et de marins pour demander aux gens s'ils n'avaient pas des vieilleries, finalement, vous savez, pour décoller le musée. Alors donc, ces femmes avaient eu aussi, en 1981, la bonne idée de faire des entrevues des femmes de marins du village importantes. On pense à Cécilia.
Alors, arrêtons-nous un instant là-dessus, parce qu'on a du temps pour en parler.
Mm.
C'est absolument fabuleux.
Oui, alors on a retrouvé ces enregistrements-là. Je dois vous dire que ça avait été fait avec les outils, les moyens du bord, parce qu'on était au tout début du musée. Donc, c'était des enregistrements tellement... ça grichait tellement. Il n'y a pas un auditeur, une auditrice qui a enduré ça 2 minutes. Alors, donc, comme on en voulait des extraits parce qu'elle disait des choses intéressantes, on a doublé avec une belle voix radio. On a doublé dans les balados des extraits qu'on a pris de ces femmes-là, en plus de faire d'autres entrevues avec d'autres femmes vieillissantes, parce que les goélettes ont cessé de naviguer dans les années 70. Alors donc, les femmes qui ont bien connu cette période-là, elles sont toutes vieillissantes.
Mais,
Il n'y a pas de jeunesse là-dedans.
Je comprends bien. Mais c'est les histoires qui sont racontées. C'est l'acceptation qui est faite dès le départ quand on devient femme de marin.
On sait qu'il ne sera pas là.
Voilà. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que quand on se marie, des fois, on trouve même qu'il n'est jamais assez là. Donc, partant de ce principe, être déjà dans l'acceptation du départ, des longs mois de séparation, du travail qu'il y a à faire en attendant et de l'accueil. Et à un moment donné, je ne sais plus de laquelle on parlait parce que je les ai écoutées les unes derrière les autres. Mmh. Et c'était cet effet de dire oui, quand on est une femme et qu'on a eu à s'occuper à gérer plein de choses pendant des mois... difficile de remettre à l'homme qui rentre le travail fait, quoi. Ils ont envie de continuer à le faire.
Oui, mais vous savez, dans ce que vous soulevez, il y a plusieurs réalités, mais ces femmes-là avaient souvent, elles étaient les filles de marins avant de devenir les femmes de marins. Hein. Donc, elles connaissaient souvent...
Elles avaient déjà vécu
ça. Générations. Alors, donc, souvent, elles savaient exactement ce qui les attendait, de un. De deux... c'est sûr que les femmes à terre en géraient beaucoup, 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 hein. Il faut aussi, faut pas regarder cette histoire-là avec les yeux du présent. C'est-à-dire qu'on est dans un Québec qui est ce qu'il est, c'est-à-dire un Québec très religieux, un Québec où les femmes sont souvent des maîtresses-femmes et un peu cachées derrière des hommes. D'ailleurs, toutes les femmes qui nous ont donné des entrevues qu'on a reprises, elles ont toute leur vie porté le nom de leur mari. Elles n'avaient même pas leur propre nom, bien souvent. Mais c'était l'époque aussi. Hein. Tout le monde était comme ça. Et l'idée d'être dévouée à son homme et à la famille, c'est bien sûr que ces femmes-là ont porté ça aussi. Mais je trouve que la plus belle et la plus facile des comparaisons qu'on puisse faire, c'est avec les agricultrices, les fermières. C'est la même histoire. C'est la même histoire de femmes qui ont beaucoup contribué et qui ont beaucoup travaillé et que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on reconnaisse leur apport. Hein, parce que, par exemple, les femmes, elles, occasionnellement, l'été, surtout quand les hommes étaient en mer, les femmes répondaient au téléphone puis vendaient des voyages. Aujourd'hui, ça porte un nom. Hein, on les appelle les traders, donc les gens qui s'occupent du commerce des bateaux. Oui. Et donc, ces femmes-là se faisaient ça à travers les enfants à élever, puis souvent la grand-mère à garder à la maison, puis etc. Là.
C'est incroyable.
Où tous les gens qui ont un certain âge, on se rappelle d'avoir vu ces femmes-là, les premières levées puis les dernières couchées. Là. C'était tout le temps comme ça. Là.
Oui, mais c'est ce qui m'a fascinée. Puis c'est leur côté, pour une dont je n'ai plus le prénom en tête, mais qui était devenue une vraie femme d'affaires.
Oui. Elles ont été plusieurs à être des vraies femmes d'affaires. Par exemple, Mathilda Desgagné, qui a vraiment aidé ses trois fils dans une compagnie qui s'est appelée les Transports Unis. Bella Desgagné aussi, qui était sa belle-sœur. Cécilia Desgagné, qui est la femme de Roland, qui a vécu plus récemment. Mais Cécilia qui va gérer les Transporteurs Unis, plus le barrage hydroélectrique de Saint-Joseph-Larry.
C'est quand même... Avouez que quand même, c'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant.
Quand on écoute ces témoignages, ces histoires, c'est impressionnant.
Et, par exemple, les gens ici, dans les gens qu'on a interviewés pour faire des recherches, puis tout ça, tu sais, il y a des gens qui vont vous dire que Mathilda Desgagné, c'est une femme absolument moderne. La preuve, c'est qu'elle va investir ses sous dans un barrage hydroélectrique au moment où le Québec n'est pas électrifié partout, d'un. De deux, on dit aussi d'elle qu'il ne fallait pas vouloir négocier contre elle parce qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Mais pourtant, elle a toujours dit que c'est ses garçons, c'était ses garçons et son mari, ses garçons et son mari. Ce qui est caractéristique de ces femmes-là, c'est que souvent, elles devenaient propriétaires de bateaux parce qu'elles devenaient veuves.
Oui, c'est ça dont je voulais parler parce que s'il n'y avait pas s'ils n'avaient pas fait un testament, elles pouvaient ne pas récupérer leur bateau.
C'est-à-dire que c'est ça. Alors, si les capitaines propriétaires n'avaient pas de testament, elles pouvaient à l'époque se retrouver en minorité, propriétaire minoritaire des bateaux avec les enfants. Donc, et quand c'était à des périodes où les enfants étaient mineures, donc elles avaient souvent la responsabilité de la gestion, puis on se rappellera qu'à cette époque-là, on devenait majeur à 21 ans. Alors souvent, elles géraient des entreprises dont elles allaient tôt ou tard être départies. C'est ça qui est à la faveur de leurs enfants. Quand il y avait des testaments, on en connaît plusieurs cas, à ce moment-là, souvent, elles héritaient de 100% des bateaux. À l'époque, on disait que ça prenait un bateau pour faire vivre une famille. Alors, par exemple, il y a une dame Bouchard à Saint-Siméon qui fera construire une deuxième goélette parce qu'elle a deux fils. Alors, elle est devenue à l'hérité, puis elle avait juste une goélette, elle en fait faire une deuxième pour son autre fils, etc. Donc, les femmes deviennent propriétaires des bateaux par héritage. On en connaît qui ont mis des bateaux en construction, mais on n'en connaît pas qui ont été capitaines elles-mêmes toute leur vie. Là. Ça, on n'en connaît pas, mais on en connaît qui ont aidé leur père, qui ont navigué, puis qui connaissaient le fleuve.
Alors, il y en a qui ont navigué avec leur père, aussi.
Oui, leur mari, leur frère. Il y a des femmes, elles ont... Il y a même un auteur, M. Côté, qui dit, dans son livre sur les goélettes du Saint-Laurent, qui dit que les femmes savaient tout faire aussi bien qu'un marin. Et il écrit ça en 1973, si ma mémoire est bonne, ou 93, quelque chose comme ça. Donc, on peut dire qu'elles ont tout fait dans un milieu d'hommes dont on s'est mieux souvenu des hommes que des femmes.
Je me rappelle la voix d'une dame qui témoigne et qui dit quand elle grimpait dans la goélette qu'elle faisait des trucs, elle en est étonnée aujourd'hui d'avoir réussi à le faire, quoi.
Oui, c'est ça.
C'était drôle, elle était très amusante parce qu'elle disait, je me demande encore comment j'ai fait, mais je devais être portée par autre chose.
Oui, c'est ça. Et elles étaient, évidemment, souvent pour les gens aujourd'hui, avec le regard que les gens portent, on oublie que c'était une navigation de travail. On était dans le cabotage. Hein. On n'était pas du tout dans une navigation de plaisance. Donc, on travaillait très fort sur les goélettes. Elles ont transporté de tout, d'un village à l'autre sur le Saint-Laurent et même jusqu'aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Puis on allait beaucoup dans sur les grands lacs aussi en goélette. Mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel qui a été transporté, c'est d'abord et avant tout de la pitoune pour faire du papier. Et donc, c'était du gros travail.
Quand vous dites de la pitoune, c'est quoi?
C'est des morceaux d'arbres de bois de 4 pieds de long.
Ah, parce que quand j'entends pitoune, je pense à une jeune fille.
Non. La pitoune, c'est... Alors, les goélettes ont transporté de tout, mais aussi, et beaucoup, principalement, du bois. Vers les ports, entre autres, de Trois-Rivières, on alimentait les grandes papetières de Trois-Rivières avec le bois qui venait de la côte nord ou de la rive sud. Et donc, elles ont beaucoup transporté aussi tout ce qu'il fallait pour développer la côte nord, les industries de la côte nord au début du 20e siècle. Elles ont tout transporté, puis elles entraient le matériel pour faire les grandes industries, puis elles ressortaient avec des chargements de bois pour, par exemple, Trois-Rivières. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'était une vie extrêmement difficile. Les conditions à bord, c'est des toutes petites cabines qui sont même pas chauffées au début du 20e siècle. Ça sera assez long avant qu'on chauffe les cabines. Il n'y a pas de confort, il n'y a pas de douche, une goélette, là. Il n'y a pas des salles de bain comme vous pouvez les imaginer aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui.
Alors, c'était une vie rude, hein?
Ah, très rude. Et les gens travaillaient très fort. Par exemple, c'est un peu pour faire image, là, mais on dit que les gens étaient sur des quarts de travail et on changeait aux 4 heures parce que les gens avaient froid. Les femmes, par exemple, qui étaient aux cuisines, celles qui travaillaient dans les cuisines, disaient qu'il fallait 24 heures par jour du café chaud, toujours, parce que les hommes avaient besoin de se réchauffer et tout. C'était une vie difficile. Les ravitaillements avaient lieu dans les ports, d'abord en eau. Le premier produit dont il fallait qu'ils se procurent, c'est de l'eau, puis après ça, les ravitaillements. Mais quand les femmes n'étaient pas sur les bateaux puis qu'elles étaient au village, dès qu'il y a eu des possibilités d'avoir des radios, téléphones et tout ça, on communiquait avec le village pour qu'on prépare les courses. Les femmes s'occupaient beaucoup de ça, de ravitailler les bateaux. Les bateaux, parfois, arrêtaient on naviguait à peu près 6 à 7 mois par année. Les bateaux arrêtaient aux différents quais où logeaient les propriétaires. Puis, on ravitaillait rapidement, souvent, 2 marées. On n'avait pas...
Le temps qu'il faisait, parce que j'ai souvenir aussi, je vous donne ça tout mêlé, mais dans les entrevues que j'ai écoutées d'une dame qui riait en disant « Quand vous vous plaignez de votre vie, de votre petite vie à vous qui êtes sur Terre, venez faire un tour en goélette une fois, et après, quand vous revenez sur Terre, c'est le bonheur. »
Oui, ça, c'est Jeanne-Paul Degagné qui dit ça, qui est une des femmes Jeanne-Paul a, je pense, 75 ans maintenant. Mais elle, dans la vingtaine, elle naviguait pas occasionnellement pour aller aider son père ou son cousin. Là. Elle était sur les bateaux du mois d'avril au mois de novembre comme cuisinière.
C'est celle qui était cuisinière qui restait comme cuisinière, c'est ça.
Oui. Et puis dans l'entrevue qu'elle donne dans le balado aussi, elle dit, elle parle d'une tempête qu'ils ont croisée sur la côte nord.
Oui, voilà, c'est ça.
Il n'y a pas personne qui a dit un mot, puis il n'y a jamais personne qui en a reparlé. Et ça veut dire qu'ils avaient eu très, très peur.
J'aime ça, c'est parce que quand Quand elle dit qu'à ton arrivée, tout le monde était blême et pas un mot.
Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est de grandes traditions dans le maritime. Quand on a très peur, on parle pas.
D'accord.
Il y a personne qui en parle après non plus, parce que sinon, ça c'est comme un peu de superstition là-dedans.
Oui, oui.
On reparle pas de la tempête une fois qu'elle est passée. Quand elle est passée, tu sais. Puis les goélettes étaient, selon qui était propriétaire des goélettes, elles n'étaient pas toujours dans les mêmes états. Hein. Il y a des propriétaires de goélettes qui entretenaient moins ou mieux, ou ça dépendait aussi des moyens des familles. Là.
Oui, c'est ça aussi.
Et donc, c'était une vie rude, mais ceux et celles qui ont été très près des goélettes, tout le monde en parle avec... C'est une vie rude que beaucoup de gens ont beaucoup aimé. C'est ça que j'essaie de dire.
Je comprends. Et puis, je comprends cette passion qui animait tout le monde, autant celles et ceux qui étaient sur Terre.
Que toutes la première chose que les femmes ont faite dans l'époque des goélettes, c'est de mettre au monde tous les marins.
Ah oui. Oui,
et
c'est
donc,
vrai.
Elles avaient... Puis l'autre chose que les femmes ont beaucoup eu, c'est peur. Alors donc, elles ont imaginé que vous êtes dans un village maritime comme Saint-Joseph-la-Rive ou Petite-Rivière-Saint-François ou Saint-Siméon. Là, je vous nomme des villages en Gaspésie. Pas en Gaspésie, mais en Charlevoix, pardon. Mais c'était pareil en Gaspésie, c'était pareil dans le bas du fleuve parce que là aussi, il y avait des goélettes. Imaginez quand la tempête se lève, ces femmes-là, ils ont juste hâte que ça finisse. Puis ils pensent à leur fils. C'est souvent à leur fils et à leur mari qui sont sur les mêmes bateaux, là.
Oui, bien sûr.
Alors, tu sais, c'est et ici, les femmes disent souvent qu'elles ont eu peur puis qu'elles ont prié pour deux.
Ah ben.
C'est joli.
Je comprends ça, puis c'est beau, oui.
Oui, c'est beau. Dans le premier balado, on a fait l'interview avec une historienne qui s'est intéressée aux migrations saisonnières. Et c'est une femme qui vient de sa famille vient de Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis c'est intéressant dans le balado parce qu'elle dit que elle compare à la vie des femmes de bûcherons. Puis en fait, elle dit presque que c'était un peu moins dur sur les goélettes parce que les femmes étaient seules l'été.
Ah oui.
Et donc, il y a du travail parce que les femmes sont au potager, les femmes. Bon, mais c'est pas l'hiver, hein. Puis on connaît la rudesse
des hivers
de Charlevoix. Et là, je comprenais qu'elle évoque un peu l'idée que c'était peut-être encore pire pour les femmes de bûcheron d'être tout seules avec les enfants à la maison en plein hiver.
C'est ça.
C'est des merveilleuses réalités. Puis ça a été formidable de faire ce balado-là.
En tout cas, c'est pour ceux qui ne connaissent rien à ça, c'est hyper intéressant.
Ouais.
Vraiment, c'est passionnant. Puis ça me plonge comme à une autre époque. Je ne sais plus où je suis. Je ne savais plus dans quelle époque j'étais. Simplement, je les écoutais. Mais on va continuer à parler tout à l'heure de l'exposition. Mais on va faire une petite pause dans une minute. J'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée. Ce mélange de personnes qui parlent, qui racontent toutes ces histoires différentes font que... Bon, j'ai pas retenu le nom de tout le monde, je m'en excuse, mais l'histoire était tellement passionnante.
Ah, merci beaucoup, merci.
Au milieu de tout ça, donc bravo pour ce que vous avez mis et puis ce que vous avez fait. Donc, dans le prochain moment, on va parler de l'exposition permanente.
Oui.
Et puis de l'expo, de la toute nouvelle expo qui est aussi dédiée aux goélettes à voile et puis la vie. Avec, on va poser la question, que deviennent les goélettes? Voilà, d'accord.
Voilà.
Donc on part en musique et puis on se retrouve dans un instant.
Parfait.
Restez avec nous. On vous retrouve tout de suite.
cherche des mots qui touchent les vôtres, qui soient sans défaut et n'en veut point d'autre. J'ai le mot baiser tout près pour les lèvres et j'ai le mot fier m'embraser. Avec un peu d'âme, et beaucoup de peur, j'ai voulu, madame,
d'entendre Jérôme Dupuis-Cloutier qui nous chantait avec un peu d'âme. Ah, de l'âme, il devait en avoir, tous ces gens qui partaient sur les bateaux. Donc là, on va faire la petite pause. On revient tout de suite après avec Marianne Rainville. Et là, on va parler de l'exposition permanente et de la toute nouvelle expo qui est dédiée aux goélettes à voile. À tout de suite.
Écoutez Les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Nous café crème, que sait-on vraiment des cultures lointaines, d'autres tribus, des aborigènes, nous dans l'hystérie, dans l'anxiogène, dans nos soucis, dans nos problèmes, que sait-on vraiment des autres peines, d'autres musiques et des autres thèmes, sans distance et sans s'éloigner suffisamment de l'immense. Que voit-on vraiment si vous êtes monté, que vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes de Corée, si vous êtes monté, que vous nous voyez, dites-nous comment le monde est décoré. Si vous êtes monté, que vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes de Corée.
Alors, on vient d'entendre Ours qui nous chantait les montagnes de Corée. Alors, Marianne, vous êtes toujours avec moi?
Mais oui, je suis toujours avec vous.
Alors, on va...
Saint-Joseph-la-Rive.
Alors, on va parler du musée, on va parler de l'exposition, et l'exposition permanente et de la toute nouvelle expo qui est dédiée aux goélettes à voile.
Oui. Alors, l'exposition principale du musée, c'est une exposition qui interprète à la fois 4 bateaux, dont 3 goélettes de bois, typiques de Charlevoix, et tout un chantier maritime tel qu'on pouvait les voir exister au 20e siècle. Donc, notre exposition vous présente toute l'histoire des goélettes. On sait que ça dure à peu près 200 ans au Québec, les goélettes, le cabotage, et on continue à caboter, mais plus en goélette. Donc, ça, c'est pour l'exposition principale. Vous avez même dans une de nos goélettes, là, à Saint-André, une exposition multimédia qui vous amène faire pendant 10 minutes, qui vous donne l'impression de faire un voyage sur une goélette. Et c'est en travaillant à toutes ces améliorations dans les dernières années qu'on s'est rendu compte que notre exposition permanente escamotait un peu la présentation des goélettes à voile qui ont été si importantes au 19e siècle et jusqu'aux années 20 sur le Saint-Laurent. Et on a, avec l'équipe de Créo, une boîte spécialisée en muséologie, on a conçu une exposition qui s'appelle Le Huitième Voyage, parce que c'était le huitième voyage des goélettes à voile, c'était celui qu'on faisait tard à l'automne. C'était le plus payant, mais le plus risqué. Alors donc, Le Huitième Voyage, c'est une exposition ludique, technologique, qui raconte l'histoire de la navigation en goélettes à voile, et qui a été conçue pour la famille, avec notamment un jeu vidéo qui vous amène à être capitaine d'une goélette à voile.
Ça doit être génial, ça.
C'est génial.
Sans les incidents qu'ils ont vécu.
On a même eu récemment un pilote de nos amis qui est venu au musée et qui a fait le jeu. Et comme il n'était pas super bon en jeu vidéo, il a fini mopologiste, alors en charge de la mop sur le pont, et non pas capitaine. Alors, il est sorti du pavillon où on présente cette exposition presque vexé, parce que dans la vie, il est un pilote sur le Saint-Laurent. Ce que peut-être beaucoup de vos auditeurs ne savent pas, Arlette, c'est que le Saint-Laurent est la deuxième voie de navigation la plus difficile au monde.
Ah oui, ah non, ben même moi, je ne le savais pas.
Oui, alors, et donc, quand on sait ça, on peut mieux apprécier la qualité des charpentiers maritimes qui ont été capables de faire des bateaux qui résistaient à ce fleuve-là. Et aussi, vous imaginez toute l'expertise de ces capitaines qui avaient comme expression, ils disaient « je navigue à l'estime ». Ce qui veut dire qu'à l'époque, ils apprenaient la navigation de père en fils et on disait « naviguer à l'estime ». Et imaginez la fine connaissance qu'il fallait qu'on se passe de l'un à l'autre avant que les formations maritimes apparaissent, puis tout ça. Et ces gens-là étaient capables de travailler sur le fleuve et de naviguer et de faire du cabotage et de faire vivre leur famille, etc. en ayant souvent des cinquièmes années fortes, comme on dit. Hein.
Oh là là, c'est incroyable. Oui, c'est
ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi de faire une exposition sur la navigation à voile, c'est que ça nous a permis d'expliquer aux gens que très souvent, on commence à naviguer au 19e et au début du 20e, on commence à naviguer aussi jeune que 11-12 ans. Là.
Là, si vite?
Ah oui, très souvent. Donc, on fait les premières années de scolaire, puis on commence à naviguer. Monsieur Audet, par exemple, Albert Audet, qui était un charpentier maritime réputé au 20e siècle dans Charlevoix, Monsieur Audet commence à naviguer à l'âge de 11 ans.
Oh là là!
Et donc,
c'est incroyable.
Dans une entrevue qu'il a accordée à la toute jeune équipe du Musée maritime en 1981, il dit textuellement, à qui on demande, « Comment vous avez appris à construire des bateaux? » Puis il répond, « Je l'ai toujours su. »
Ah ben oui.
Ben oui, évidemment. Il est embarqué à 11 ans.
Mais alors vous vous rendez compte, alors moi je me mets à la place de la mère, de la femme. Qui a son mari, certes, qui est en danger, mais son fils, 11 ans, quoi. 11 ans, j'ai l'impression que c'est même pas encore l'heure de sortir.
Avec les yeux d'aujourd'hui, c'est le 11 ans du début du 20e siècle.
Oui,
hein.
Je peux pas m'empêcher de le ramener à maintenant.
Mais, par exemple, il y en a d'autres qui ont embarqué à 12 ans, à 13 ans. Mais je pense à un autre monsieur qui a beaucoup caboté jeune, puis qui venait d'une famille de marins aussi, mais qui disait, sa mère, elle disait, ben je savais où ce qui était, puis je savais qui mangeait, puis etc. Là, on n'est pas nécessairement. Puis il y a des familles plus riches parce qu'ils ont, tu sais, ben les gars ils finissent les collèges classiques à Montréal le 24 juin, puis ils descendent en courant au port de Montréal pour embarquer sa goélette du père, puis on va travailler tout l'été, puis on remonte au collège à goélette là. C'est ça leur vie. Et
intensité.
Oui.
Franchement, c'est.
Et c'est ça qu'on raconte. Donc,
Des histoires qui ne datent pas non plus d'il y a 500 ans, quoi. C'est fou comme.
Les goélettes au Québec, c'est à peu près 200 ans. Et l'âge d'or des goélettes, c'est les années 40.
Oh là là, on ne sait pas si loin que ça. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui, les goélettes?
Elles sont, d'abord, il n'y en a presque plus. Ça, c'est le dernier volet des goélettes. C'est un volet un peu triste parce que les goélettes ont essentiellement cessé de naviguer dans les années 70 et le savoir-faire s'est dilapidé à une vitesse terrifiante. Et donc, aujourd'hui, il reste quelques goélettes. En fait, il en reste notamment trois. Les trois sont dans ma cour en très mauvais état parce que c'est des bateaux de bois. Et on a d'ailleurs un projet actuellement qu'on tente de financer auprès du ministère de la Culture du Québec et de Patrimoine Canada pour mettre à l'abri nos goélettes, pour les protéger à tout jamais, pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont, c'est-à-dire le témoin d'une très grande époque.
De cette histoire.
Mais maintenant, c'est vraiment des objets de patrimoine, les goélettes.
Oui, il faut vraiment...
Maintenant, tout le monde est passé au bateau...
Il faut vraiment en prendre soin.
Marianne,
oui, bah, allez-y.
Le cabotage est de plus en plus au goût du jour. Et actuellement, les recherches de pointe en navigation, on revient vers des bateaux de bois parce que il y a des nouvelles technologies qui permettraient d'avoir des coques qui soient beaucoup plus légères, etc. Mais on revient aussi, il y a des gens actuellement qui travaillent sur la navigation à voile avec l'usage des nouvelles technologies qui permettraient d'avoir des voiles sensitives qui bougeraient toutes seules avec les forces du vent, du soleil. Donc, dans la réflexion que fait actuellement l'industrie maritime de pointe sur l'usage des énergies renouvelables, on est à penser à l'eau, le solaire, le vent, et on travaille actuellement sur des goélettes, disons, 2.0. On pourrait dire ça comme ça. Il n'y en a pas qui voguent, mais on est dans ces idées-là. Donc, les goélettes telles qu'on les a connues, leur vie est terminée, mais elles inspirent encore, c'est ce qu'on pourrait dire.
On va partir en musique, parce que maintenant, Noémie Chélariou va venir au téléphone avec vous et on va pouvoir discuter de cette chanson que vous lui avez inspirée en nous parlant de ces femmes, de ces marins et de ces goélettes.
Mon Dieu!
On revient tout de suite après ça.
Mon père aussi m'a marié. Guélon, là, je m'en vais rouler. Un assez vilain.
rouleur, rouleur. Guélon large, m'en vais rouler en filant ma quenouille.
Un ACV, il m'a donné.
Guélon large, m'en vais rouler.
Qui n'a ni maillot ni denier.
Je me rouleur, rouleur. Guélon large, m'en vais rouler en filant ma quenouille.
Qui n'a ni maillot ni denier.
Guélon large, m'en vais rouler.
Qu'un vieux bâton de verre pommier.
Je me rouleur, rouleur. Guélon large, m'en vais rouler en filant ma quenouille.
Qu'un vieux bâton de verre pommier.
Guélon large, m'en vais rouler.
Avec quoi mon bal écouter.
Je me rouleur, rouleur. Guélon large, m'en vais rouler en filant ma quenouille.
Avec quoi mon bal écouter.
Guélon large, m'en vais rouler.
Si vous me battez, je m'en irai.
Je me rouleur, rouleur. Guélon large, m'en vais rouler en filant ma quenouille.
Je m'en irai.
Guélon large, m'en vais rouler.
Je m'en irai au bois jouer.
Je me rouleur, rouleur. Guélon large, m'en vais rouler en filant ma quenouille. Guélon large, m'en vais rouler en filant ma quenouille.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Maurice? Fais-nous une petite annonce.
On vient d'entendre la formation Madrigaya en filant ma quenouille.
Ah, c'était super à entendre. Est-ce que maintenant nous avons Marianne et est-ce que nous avons aussi Noémie?
Oui, oui, ah, on est là. Allô.
Ah, bah, bon, ah, bah, bonjour Noémie.
Bonjour Arlette, bonjour Marianne.
Bonjour Noémie.
Alors Marianne, t'es très surprise de savoir qu'il allait avoir une prestation pareille. Donc, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Comment tu as vécu cette entrevue?
D'accord. Le processus, c'est parfois c'est étrange. C'est tout le temps différent à chaque fois pour les habitués de la chronique.
Oui, c'est
Ce matin, à 7 heures, quand je m'ai réveillée, je suis allée déjeuner avec mon oncle au coin du feu et j'avais déjà une étrange mélodie. Comment je l'ai décrit? Parce que je l'ai envoyée à Arlette. J'ai dit à Arlette, attends, une étrange mélodie épique, romantique, qui peut être aux couleurs des horizons.
Et moi, ça m'a beaucoup fait rire, mais j'ai rien dit du tout.
C'était ça, la musique. Là, je me suis dit, je vais prendre un risque aujourd'hui. Quand je vais ouvrir l'émission Les Faramineux, puis que je vais me brancher pour commencer à créer, puis tout ça, je me lance le défi d'essayer de trouver une cohérence avec la musique qui m'avait été inspirée ce matin. Et ça marchait! C'est ça qui est hot! C'est parfait. Puis, bon, j'avoue que à 12h21, j'ai quitté l'entrevue pour aller commencer à construire mes voix, mes harmonies. D'accord. Donc, la dernière chose que j'ai entendue de
Marielle, c'est, oui.
C'est Marielle ou Marianne?
Marianne.
Oui, OK, Marianne. La dernière chose que j'ai entendue de l'entrevue, puis là, je me suis dit, bon, je pars avec mon butin et je m'en vais créer avec ça. Et lorsque... Un instant, je cherche. OK. Pas longtemps après que vous aviez parlé d'une femme dégagnée.
Oui.
Qui était une redoutable argumentatrice.
Ah.
C'était
ah, oui.
Son bord. Alors, il y a sans doute un bon bout de l'entrevue que je n'ai pas pu saisir et j'espère que mon esprit de synthèse a quand même réussi à créer quelque chose qui est pertinent.
Alors, écoute, on va faire comme l'autre fois, on va l'écouter une première fois pour les paroles. Alors, t'as fait quoi comme histoire? Tu veux qu'on la découvre maintenant puis on en parle après? Allez, on la découvre tout de suite et puis on en parle après.
Oui.
Allez.
Tu resteras sur la berge pendant que je chasserai l'horizon. Si les vagues me bercent, tu seras à la maison à faire grandir des rêves qui racontent mon histoire. Ma belle, si tu m'aimes, tu aimes aussi la mer. Tous les espoirs que je reste chantent sur la grève le soir. Dans notre testament, puisque tu restes à terre, à élever nos enfants, à élever nos affaires, ma belle, si tu m'aimes, tu aimes aussi la mer, le froid et la tempête. Si le bateau ne coule, ton amour honnête me réchauffe quand ça houle. Ne m'oublie pas, ma belle, durant ces cruelles heures. Ma belle, si tu m'aimes, tu aimes aussi la mer. Et reste sur la berge, je chasse l'horizon. Les vagues me bercent, tu restes à la maison.
Vraiment très jolie.
Oui, oui. Waouh. Waouh.
T'as trouvé, c'était vraiment le genre de musique qui allait. D'ailleurs, ça m'amusait quand j'ai vu ce que tu m'écrivais ce matin, mais je réponds pas parce qu'il faut que t'attendes de savoir qui sera là.
Mais, oui, c'est ça.
Mais ça me faisait...
Tu me donnes d'indice.
Non, ben non, pas d'indice, fallait que tu l'entendes. C'est pour ça que Marianne, je vous faisais parler beaucoup de ces balados ce matin pour donner du grain à moudre à Noémie pour sa chanson.
Oui, mais vous savez, il y avait aussi dans les balados, et il faut que je le dise parce que ce serait méchant pour les artistes, il y avait aussi trois artistes formidables qui, à chacun des épisodes du balado, on fait des prestations musicales de théâtre, oui. Etc., ouais. De chant, et ça donne toute une texture au propos du balado, exactement comme la chanson de Noémie maintenant donne de la texture à l'entrevue que nous faisons. Moi, je pense que les artistes, ils nous amènent toujours un peu plus loin.
Ah oui, mais c'est magnifique.
On est comme les bateaux de l'âme.
C'est ça, les bateaux de l'âme. Oui, c'est une belle image, ça, les bateaux de l'âme. Oui, tout à fait, tout à fait.
Écoute, oui.
Merci beaucoup, Noémie, merci.
C'est très joli. Dans ton inspiration, tu t'es laissé envoler. Est-ce que tu t'es mis un petit peu à la place d'une femme de marin?
Oui, ben c'est ça. En fait, quand j'ai eu ma phrase que je considère comme un refrain, « Ma belle, si tu m'aimes, tu aimes aussi la mer. » Mm. Il me semble que ça décrit... On peut être rapidement mis en contexte de genre, j'ai marié un marin, peut-être même que mon père l'était, puis je l'aime, donc j'aime ce que ça amène comme conséquence.
Vous avez tellement raison, Noémie, parce que les femmes de marin, notamment celles qui sont devenues veuves ou encore celles qui ont perdu des fils, ou etc., elles quittaient pas les villages, elles tournaient pas le dos à la mer. Durant que je vous écoutais et que j'entendais la phrase qui vous sert de refrain, c'est l'image qui m'est venue. C'est les femmes, elles ne quittaient pas, elles ne tournaient jamais le dos à la mer. Elles l'aimaient autant que leur homme, je pense.
Ah, c'est tellement beau, là, je suis comme émue.
Oui,
comme
moi aussi, ça m'a donné des frissons.
Que vous me racontiez ça.
Mais il y avait aussi dans la langue des oiseaux, la mer, l'eau, et puis la mère, la maman aussi.
Exact.
Donc, ça représentait tout ça, hein? Parce que tu n'étais pas là parce que tu étais en train de travailler sur la chanson, mais tout à l'heure, Marianne nous expliquait qu'il y avait des enfants qui avaient, dès leur 12e année, 11, 12 ans, 13 ans, qui partaient sur les bateaux. Donc, femme devait, s'inquiéter pour son époux, pour son père ou pour ses frères, et pour son fils, et pour...
Et pour en remettre un peu sur ce que vous dites, Arlette, j'ajouterais que souvent le plus vieux partait sur le bateau, le mari était sur le bateau, puis elles en avaient un autre marin en confection dans la bédaine.
Ah oui, il y avait ça aussi.
Parce que vous voyez un peu le cycle. Alors j'imagine, tu es enceinte, tu as d'autres enfants, nana, ton plus vieux monte pour la première fois, s'embarque pour la première fois. Bon, le seul avantage, c'est que c'était des entreprises familiales. Alors, généralement, il s'embarque avec son père, son oncle. Vous savez, c'est pas complètement dans un milieu de travail étranger.
Oui, mais même si on connaît que des fois, ça, comme vous l'expliquez aussi, c'est de père en fils ou de père en fille, hein, puisque les filles aimaient ça aussi, elles faisaient du bateau. C'est quand même un rude métier. C'est le genre de métier où, si on n'a pas la passion dans le corps, dans chaque cellule de notre corps, pas possible de le faire.
Non. C'est pas des... Mais encore aujourd'hui, hein, c'est sûr que le monde maritime a énormément changé. On est beaucoup moins dans des entreprises familiales. On est dans les transatlantiques, les énormes bateaux. Hein, on l'a vu récemment dans le canal de Suez, un seul bateau qui peut bloquer le cabotage international. Mais encore aujourd'hui, on est beaucoup marin de père en fils. Mais encore aujourd'hui, c'est un métier qui est extrêmement exigeant. Bien évidemment que et en plus, les séjours peuvent être encore plus longs qu'ils étaient autrefois parce que ici, on faisait au Québec sur l'océan Ross ce qu'on appelait de la petite navigation. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la navigation au long cours, hein. Donc, à peu près toutes les semaines, 10 jours, on faisait au moins une petite escale au village. Mais aujourd'hui, des fois, les marins, ils sont des mois et des mois. Puis en temps de COVID, entre autres, il y a eu des ports partout dans le monde qui ont refusé qu'on accoste. Alors, donc, il y a des marins qui ont été des 14-15 mois sur les bateaux sans même mettre le pied à terre parce que la COVID, etc. Là. Donc, c'est des conditions de travail qui peuvent être extrêmement exigeantes.
Bon, on dirait aussi que ça m'inspire que, évidemment, que les filles devaient se soutenir entre elles parce que, tu sais, aussi que tu trouves du réconfort, du support. Tu sais, les femmes, ça crée un contexte où les femmes ont à se soutenir puis à être fortes l'une pour l'autre puis tout ça, là.
Être très présentes l'une à l'autre et aussi les générations. Les mères étaient là pour leurs filles, là, hein? Il y avait entre les maisonnées, je dirais, puis dans la maisonnée aussi, là. Mais c'est sûr que les femmes se sont beaucoup appuyées, notamment au moment des accouchements, puis etc. Là. Elles ont été solidaires les unes des autres. Puis elles vivaient dans des villages où on était conscient que leurs hommes étaient sur les bateaux. On vivait dans des villages où tout le monde... Tu sais, ici, Saint-Joseph-de-la-Rive, depuis que Saint-Joseph-de-la-Rive existe, que ça tourne autour du fleuve. C'est la même chose à l'île aux Coudes, c'est la même chose à Petite-Rivière, à Malbaie, à Pointe-au-Pic, etc. Les bateaux étaient les cœurs battants, les chantiers maritimes. Donc, on est toute l'économie. C'est un visage de Charlevoix dont on parle moins souvent. On parle de Charlevoix plus le côté montagne, mais Charlevoix, c'est aussi beaucoup, certainement autant, des villages maritimes où on vit du fleuve, on vit avec le fleuve. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui ici me disait, il y a peut-être 2 ans, il y a quelqu'un du village qui me disait « Le fleuve est le village ». Donc, c'est pas...
C'est beau, dis donc, « Le fleuve est le village ».
Oui, le fleuve est le village. Donc, les gens, ils vivent avec le fleuve tout le temps. Et c'est une continuation du village. Et c'est très différent par rapport à la rive sud. Ça se passe pas pareil sur la rive sud parce que c'est beaucoup plus... L'agriculture a pris beaucoup plus de place, par exemple, dans le bas du fleuve. Même s'il y a le fleuve, même s'il y a des quais, même s'il y a eu des goélettes, tout ça, il reste que le bas du fleuve, ça s'identifie plus à l'agriculture, la foresterie, puis tout ça. Ici, le maritime est très important. Moi, j'aime à rappeler que les mâts des goélettes, c'est notre flèche de Notre-Dame de Paris. C'est la même chose. C'est aussi important. Un village comme celui de Saint-Joseph-de-la-Rive, on a bâti plus de 140 bateaux.
Oui.
Tu sais, en Charlevoix, on a bâti un peu plus de 450 goélettes dans l'histoire des goélettes. C'est beaucoup de bateaux, ça.
Allez, c'est l'été. Allez voir ce musée, écouter, le comprendre. On arrive à la fin de l'entrevue, Marianne. Ça a été magnifique. Merci beaucoup.
Merci Noémie, du beau cadeau.
Et puis, si vous voulez qu'on vous envoie la chanson de Noémie, restez en ligne. On va prendre votre mail pour vous l'envoyer.
Oui, d'accord. C'est déjà fait. Votre collaborateur a déjà pris
mes coordonnées. C'est formidable. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Claire Guérin pour la recherche de Marie-Anne Rainville.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux d'avoir été là. À Maurice Bolduc pour la musique. Ah bah écoutez, ça a été un plaisir de vous entendre. Vous êtes passionnée, passionnante. Donc, vous nous donnez comme un autre endroit à aller voir si jamais on ne connaît pas encore. Et voilà. Et puis, s'intéresser aux femmes des marins. Je trouve cette idée absolument magnifique. Merci.
Alors, le balado est disponible sur le site Internet du musée.
Voilà. Allez l'écouter. Merci Noémie pour...
La belle chanson.
Pour ta créativité aussi.
Au revoir, mesdames. Merci beaucoup.
Au revoir à toutes et tous. Au revoir, Noémie. À bientôt. Merci.